Bonjour à tous et à chacun, à toutes, à chacune. Bonjour, amis du poème et des poètes. Bienvenue sur La Route Inconnue, magazine bimensuel dédié à la poésie qui respire encore et qui va, je l'espère, respirer encore très longtemps. Une émission produite, je vous le rappelle, en partenariat avec l'excellente revue Des Charges. En seconde partie d'émission, vous pourrez entendre les voix de Claude Verset et de Patrick Jokel, nos chroniqueurs de choc. Mais avant cela, coup de projecteur sur le dernier livre de Jean Le Boël et leurs bras frêles tordant le destin. Très beau titre, une suite de poèmes précédée d'un avant-dire dont j'aimerais eh bien qu'il fût au cœur de notre conversation, Jean, si vous le voulez bien.
Bonsoir,
Bonsoir.
bonsoir Christophe, et merci de m'accueillir et de donner un écho à la parole des poètes.
Cet avant-dire, vous l'avez intitulé Bréviaire du poète, et vous maîtrisez si bien l'art de la concision que finalement, en quelques lignes, tout est dit dès la première page. Si vous le permettez, je vais vous lire. Je vais lire donc la page 5. Mes poèmes sont écrits dans ce français que condamnent et défigurent quotidiennement des emprunts inassimilés, l'abandon de son histoire et de son projet, l'ignorance ou le mépris des règles qui lui donnent de la finesse. Bien que la cause soit sans doute perdue, qui, pour nous lire bientôt, je voudrais respecter l'outil dont j'ai hérité tout en restant accessible aux plus modestes. C'est un véritable plaidoyer pour le style, alors au sens, je ne sais pas si ça vous fera plaisir, mais c'est un peu au sens chardonnien du terme. Je me souviens que Chardon disait, un écrivain qui écrit mal, ce n'est pas grand-chose, vous êtes évidemment trop bienveillant. J'en suis certain pour reprendre à votre compte cette formule assassine, mais cependant, il y a de cela, vous jugez que la langue est aujourd'hui en danger?
J'entends dire partout que la langue évolue, que c'est normal. Je ne m'oppose pas, de toute façon, je n'y peux rien, je le constate comme chacun. Je ne m'oppose pas à tout ce qui est apport de mots techniques, puisque de toute façon, ces mots se périment et ils ne sont pas dans l'essence de la langue. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est la perte de la maîtrise de la langue. Sans être un puriste, je pense que les mots ont un emploi, ont une histoire, ont une étymologie, qu'elles donnent sens. Et pour en venir au propos particulier qui est celui de la poésie, je regrette que ce pas de côté qu'est la poésie soit souvent réalisé au détriment de la langue, non pas avec la langue, mais au détriment. Et je ne nie pas que l'on puisse produire des effets. Mais je regrette qu'on les produise sans les nourrir de la langue elle-même, de sa maîtrise, de sa connaissance. Bon, elle est en danger objectivement. Bientôt, le français ne sera plus parlé par les élites. On confiera ses enfants à des écoles où on s'exprimera probablement en anglais, etc. La recherche se fait déjà en anglais. Et donc, il y a un danger.
Oui. Alors, vous parlez, c'est quelque chose de fort, vous parlez à propos de notre langue, d'un abandon de son histoire et de son projet. Alors, de quelle histoire et de quel projet parlez-vous?
Alors là, je vais revenir à mon histoire personnelle, mais je me souviens que j'avais été très impressionné par un propos dans un entretien de Georges-Emmanuel Clancier, qui disait un poète ne devrait jamais employer un mot sans connaître son étymologie. Et cela m'a interloqué. Et puis, au fur et à mesure, je me suis persuadé qu'il avait raison. Et le plus amusant, c'est que je lui ai dit, mais un jour, vous m'avez dit quelque chose que Georges Emmanuel est un vieux monsieur, mais dont je suis très heureux d'être une connaissance, peut-être même un ami. Et un jour, je lui dis, mais Georges Emmanuel, vous ne savez pas à quel point vous avez influencé mon travail. Et je lui rappelle ce mot, il dit, ah, j'ai dit ça, avec beaucoup de malice. Et oui, il y a dans les écrits de beaucoup des maladresses qu'une meilleure connaissance de la langue leur aurait permis d'éviter. Alors, je n'en suis pas à regretter comme d'autres le faisaient. Vous savez, cette distinction entre, on raconte tous cette histoire de la Montespan en répondant à la nouvelle favorite de Louis XIV, qui lui dit, alors que la Montespan s'est réfugiée dans une cellule de couvent, qui lui dit « Oh, comme vous devez être aise !» Et la Montespan lui répond « Non, madame, je ne suis pas aise, je suis contente. » Et contente au sens de « Qui sait contenir ses désirs ?» Aise, ça veut dire « Je me répands. »
Oui.
On perd quelque chose, on perd une richesse.
Ah, tout à fait,
et tout ce qu'on prétend apporter à la langue, quand on dit « On l'a fait évoluer, c'est normal. » Que sont les Anglais qui ne comprennent plus Shakespeare? Et c'est le cas de la plupart des Anglais. Et bientôt, nous ne comprendrons plus Molière. Et bientôt, nous ne comprendrons plus Ronsard.
Oui.
C'est le chemin sur lequel nous nous trouvons.
Alors ça, c'est son histoire. Mais le projet de la langue française, c'était quoi?
Eh bien, le projet, c'est un peu ce qu'explorait également Queneau. Alors Queneau habillait ça d'une fantaisie mathématique. Mathématicien, alors 1000 milliards de poèmes, etc. Machine à produire des poèmes. Queneau et donc le faisait avec humour. Je n'ai pas cette légèreté. Mais le projet, c'est ça, c'est savoir ce qui existe dans la langue. La langue, objectivement, par les mots qui la constituent, par ses structures, par sa grammaire, a un potentiel. Et c'est ce potentiel qu'il faut explorer, qu'il faut faire s'épanouir et... c'est devenu quelque chose d'indifférent.
C'est à l'école que tout commence et qu'il faudrait tout recommencer, je suppose.
Ben déjà, à l'école, il faudrait faire aimer la littérature. Or, on donne de la littérature une image, enfin, on l'aborde par des biais purement techniques. Et je vois trop de jeunes gens qui ont pourtant la même sensibilité que celle que nous avions, qui sont dégoûtés de la littérature, que ça n'intéresse pas, qui ne voient que les devoirs qu'on leur fait faire. Et je pense que malheureusement, et ça c'est contre les enseignants souvent, eh bien on fait perdre aux jeunes gens le plaisir du texte. Il n'y a que certains parents et certains enseignants pour imaginer qu'on lit un texte avec un dictionnaire en s'arrêtant sur chaque mot qu'on ne connaît pas. Un vrai lecteur lit. Et de temps en temps, évidemment, il ira voir un dictionnaire. Mais ce n'est pas ça, son objectif. Son objectif, c'est autre chose qui est dans le texte. Oui. Et ça, on ne travaille pas assez là-dessus.
Oui. Est-ce que cet abandon progressif de la langue n'est pas le signe visible d'un abandon plus général de tout ce qui a finalement fait peut-être la France, notre héritage des Lumières, et puis un projet universaliste qui passait aussi par la langue des poètes, mais aussi la langue des philosophes?
Je n'ai pas compétence pour répondre à tout cela. Tout ce que je vous dis, de toute façon, ça n'est jamais que les réflexions que je fais et que j'applique à ma propre écriture.
Oui.
J'ai par ailleurs une activité d'éditeur. Je me garde bien de jauger les autres à cette aune. Mais il y a effectivement une sorte de... Je ne dirais pas que c'est de la haine de soi, mais une sorte de découragement qui fait que, oui, on n'a plus l'idée d'une langue féconde. On la considère comme une espèce d'outil qu'on... Je ne suis pas confiant dans le respect. Je pense qu'on peut bousculer. Mais je n'aime pas qu'on dénature. C'est ça mon propos.
Vous dites toujours, alors c'est page 6, évoquant la langue, elle se métamorphose bien assez vite, malgré nous, devenue incompréhensible. Le lien entre les générations se corrompant. Pourquoi, selon vous, le lien entre les générations s'est-il corrompu?
Ben, le lien entre les générations est corrompu d'abord parce qu'on a séquencé. C'est-à-dire, il y a eu cette espèce de démarche qui avait probablement ses raisons, mais qui est devenue excessive, de tranches d'âge. Voilà, à tel âge, on lit telle chose, à tel... Or, je ne crois pas que ce soit ça du tout. Ma première émotion, mais violente, les larmes viennent encore spontanément aux yeux, c'est La mort et le bûcheron de La Fontaine. Or, je l'ai découvert, j'étais dans une classe unique, et j'avais 5 ans. Et le maître a très bien su, en quelques mots, nous dire ce qu'il en était. Et nous, des pauvres, Nous savions ce que c'était à la campagne. Des gens qui étaient, oui, qui ramassaient des bricoles, qui glanaient, qui ramassaient du bois, etc. Et ce texte, cette idée que on ne pourrait même plus le proposer à des élèves de seconde parce que c'est trop dur pour eux, et c'est la réalité, c'est ce qui se passe objectivement, ou si on le propose, ça va être avec une perspective sociologique, historique, que sais-je encore, eh bien, tout cela tue la littérature et tue son essence qui est du côté de l'émotion, du rapport interpersonnel, de l'empathie, etc., etc.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualités morales? Moi, je trouve que dans votre écriture, il y a des qualités presque éthiques, une forme d'humilité par rapport à l'outil même que vous utilisez et une grande délicatesse qui s'en dégage.
Merci de...
Ah ben, je crois que tout le monde le dit, tous ceux qui vous lisent le disent. Il y a une grande retenue et puis un usage savant de la langue mêlé à une grande humilité, non ?
Ben, oui, c'est ce à quoi, je pense, doit prétendre tout écrivain. Nous ne sommes pas les premiers, de toute façon, à employer les mots. Et donc, c'est une part de... C'est comme quand on prend un outil qui a beaucoup servi. Je vais prendre une image tout à fait... Bon, enfin, après tout, je suis dans mon portrait de rural, même si je suis plus souvent devant l'ordinateur maintenant. Mais mon grand-père, quand j'étais petit, alors c'était un tout petit agriculteur de montagne, m'a appris à manier la faux. Et j'ai encore cette faux. Alors malheureusement, le manche faiblit un peu. Mais je ne peux pas prendre l'outil sans le souvenir de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'on m'a montré à travers lui. Ce qui ne veut pas dire que je n'en referai pas une autre, que je ne l'améliorerai pas d'une certaine manière. Mais je ne peux pas ignorer.
Ouais. Alors, avant d'entamer la lecture de vos si beaux poèmes, dans l'espoir surtout de ne pas les abîmer, je constate qu'un certain nombre de ces poèmes sont dédiés à des poètes morts que vous avez aimés, c'est certain, et dont vous vous sentez peut-être redevable. Ces poètes s'appellent Paul Valéry, il y a Cadou, Saint John Perse, Reverdy, Sangor, Ponge, Marie Noël, ils sont tous là, ou presque, et si différents les uns des autres que je m'interroge finalement parmi ceux-là, lequel est votre père ou laquelle est votre mère ?
Oh, en fait, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire que quand j'ai nommé Marie-Noël, quand j'ai nommé Valérie ou Reverdy, je l'ai fait parce que il me semblait que le lecteur pouvait d'emblée voir la parenté et l'hommage. Mais en réalité, chacun des textes de ce recueil rend hommage. Il rend hommage, quelquefois, c'est simplement à travers un mot. Je prends l'exemple de Ronsard. Ronsard, dans un poème bien connu, dit « le temps s'en va, madame. Las, le temps non, et nous, nous en allons. » Et voilà que des éditions savantes m'ont appris, il y a bien longtemps, qu'en réalité, il retrouvait, c'est un texte qu'en plus j'aime beaucoup, il retrouvait le « et où, postumé, Fugaces labunturani d'Horace », c'est-à-dire ce qui est une apostrophe, posthumus, posthumus, est un vocatif en latin, est devenu le temps s'en va, le temps s'en va. Mais au même moment, hein, posthumus, posthumus, fugitif, s'enfuit les années, ou quelque chose comme ça, enfin glisse les années. Bon, et donc sur le même thème, on retrouve un mouvement, et tous les poèmes de ce recueil comportent quelque chose de ce genre, c'est-à-dire ce qui en fait l'unité, ce qui en fait un livre à mes yeux, c'est la volonté de rendre hommage à une foule de poètes, à une foule de gens dont j'ai été nourri.
Oui. Je vous cite, page 8, « La grandeur du poème ne tombe pas du ciel. Il y faut aussi une espèce d'universalité du commun, de la mécanique interne qui ne s'obtient guère que par l'écoute, par la proximité. S'il n'était évidemment homme ordinaire, le poète devrait s'appliquer à le devenir pour que sa maîtrise de la parole, l'usage particulier qui en est le sien, comme à certains de tresser les paniers ou à d'autres de débrouiller un dossier, se loge dans le souffle de ses frères, serve à les libérer. Il ne s'agit pas de s'élever, dites-vous, mais d'être parmi, de soutenir, d'aider chacun qui est comme soi à vivre son destin, à l'entendre et à le dire. Il y a presque là un idéal chevaleresque de la littérature.
Oui, je ne voudrais pas que ça paraisse pompeux. C'est quelque chose que j'essaie, enfin, que je vis profondément. C'est-à-dire, je me sens homme parmi les autres, je suis d'origine rurale, les paysans me considèrent comme un intellectuel, mais les intellectuels me considèrent comme un paysan. Je veux dire, il y a quelque chose de ça dans ma vie. Et les paysans m'acceptent parmi eux, je parle le même patois qu'eux, je fais les mêmes gestes qu'eux, j'aide au foin, j'aide à la moisson, enfin, toutes ces choses-là ont beaucoup évolué, mais je suis resté dans cet esprit-là. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un garage. Je veux être comme les gens, avec eux, et c'est ce qu'ils sont que je veux dire, parce que moi, mon outil est la parole. Mais je ne me sens pas supérieur parce que j'utilise la parole. Simplement, je suis un facilitateur d'un certain point de vue.
Jean, merci beaucoup. On va laisser passer quelques notes de musique et puis je lirai à nos auditeurs quelques extraits de ce très beau livre et leurs bras frêles tordant le destin, publié aux éditions Henri, collection Les Écrits du Nord. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Jean Le Boël et leurs bras frêles tordant le destin, publié aux éditions Henri. Le silence coule à nos oreilles. Qu'attendre sinon le pas d'un ami? Quelque chose s'éteint dans le soir qui s'affaire. Naît-ce un amour, naît-ce notre vie? Chacun étouffe dans sa peau, obscur à soi-même, et c'est son ombre qu'il suit. Les jardins secrets sont des déserts, sans oasis, sans porte, sans puits. Ô ton regard qui est ma source et qui se tarit.
Une frange de clarté ourle les cimes. Bientôt disparaîtra ce que nous savons. Est-ce ainsi que tout se meurt et qu'attendre des grands bras de la nuit? Que viennent les larmes qui soulagent et la défaite? Ils étaient pleins de vie, visages et postures sur les photographies, noces innombrables et troupeaux de conscrits, gestes incongrus, traits qui s'effacent et se confondent, lieux incertains. Habits et bibis bizarres, ils défilent dans de vieux albums, poussière et cendres qui poissent. Ils sortent de boîtes, de pêle-mêle, faites de morts qui ne boivent plus la lumière, et les yeux qui les nomment se fanent et se ferment. Ils amusent moins que le chien, que le véhicule, que le détail du décor. Désir, destin qu'on ne dit plus, monde qu'on referme dans le cercueil, n'était parfois un regard. Comme un cri. C'est linge qu'on donne de ses morts, qu'on lave et qu'on plie soigneusement, ses habits, tout doit disparaître. À d'autres peut-être ils seront lumière et chaleur, mais en soi toujours tache, embarrassée des corps qui les habitaient. On ne sait plus les gens que par les images et cette douleur dans la gorge. Sur une, on la voit voûtée dans son fauteuil, resserrant son monde autour de soi, menus objets de vie, lunettes, mouchoirs, dont s'encombre la vieillesse, tricots, tossis et livres pour les petits. C'est arrivé pourtant. Ces femmes qu'on a croisées, passantes d'un jour ou d'une année, oubliées, une ombre parmi elles, une nuit étreinte, et le rêve épuise la réalité. Que sert-il d'avoir aimé si tu n'as rien appris? Cœur de l'an qui se complète au douloir, si te chavire encore l'eau douce des regards, et moi pour l'autre en toi. Que sert-il d'avoir lutté si tu n'as pas compris? De tout temps les lâches toujours ont gagné. La vie est un courant qui emporte, indifférent, veules et révoltés. Que sert-il d'avoir tendu la main si c'est juste la sienne à quoi l'autre tient? Toi-même, tu n'as pas tout donné, avare de cet obscur intérieur, trop âpre à partager. Que sert-il de parler si ce n'est pour entendre, dans les mots, dans les souffles, dans la fraternité des bêtes et des pierres, la sève de ton bois qui ne t'appartient pas? L'eau sourd entre les mousses, comme le désir, clin de soleil, la terre grise, noircie de la boire, sous la touffe sèche. Mais c'est une autre herbe qui renaîtra. Serons-nous de ceux que déchire le ravant, fantôme aux chevets de l'ailleurs, dans la détresse des aubes, ou veillerons-nous, fraternels, sans que nos yeux sillent? Ici et ailleurs, l'ailleurs n'existe pas ailleurs, il est en nous. Par étrange que nous n'en finissons pas d'ignorer, d'aucuns emportent la nouvelle. Nous sommes ces messagers, égarés sur un sol que nous croyions familier, sans ailes, sans mât, attachés loin des champs dont s'émeut le voyageur. N'entendrons-nous pourtant ces voix innombrables dont fourmille notre sang, qui répète que l'exil n'est pas à qui sait accueillir. Viens dans ma maison, viens, Il fait froid et tu as faim. Qu'ai-je à partager, sinon des riens? Il fallait qu'un autre vînt pour leur rendre vie. Tout meurt qui ne se donne. Qu'attends-tu, toi, qui as tout perdu? La coupe tendue aux pèlerins et la rosée à ses pieds égarés. Viens dans ma maison. Demain, nous bâtirons la tienne. Le troupeau dans la poussière, piétinement aveugle et asservi, ceux qui bêlent n'en sont que la voix. L'oiseau obstiné qui ne sait que son chant, celui de ses frères, ses rivaux, en est la borne. L'écho ceint de mur, affolé au cœur du vide, qui roule et se répète, sourd qui le croit libre. Loi commune, glace d'une pensée qui se fige, que ne préférons-nous les mille sources éparses d'un printemps d'écoute et de partage? Quelle peur tient le censeur et le tyran qui ne voit que la révolte même est amour? Si ténu le ruisseau qui se tait, c'est le lac qui meurt. Dieu est petit. Pauvre homme, que te sert-il d'avoir vécu? Souffle traversant la chair, et dès l'enfance la mort dévorant les tiens, d'avoir ouvert des yeux doux sur toute chose, tendu une main patiente, tant ont compté sur ton bras, et ton sourire chantant avec les vents, si désormais tu étouffes dans ton corps et t'éteins. Dieu est petit, qui nous envoie ces tables de pierre mortes, l'autre le sanglant et celui-là marmonnant sous sa couverture. Dieu est petit, seul l'amour est grand. Le cœur s'épuise à suivre tant de chemins, pétales et pollens vibrant au vent, processions obstinées et calmes soudain, gens qui courent, veillent, érigent, ponts ou barrières, clament tes soupirs, espèrent tes mœurs. Dieu, chaque matin, allume son feu avec la vie. J'aurais oublié qui je suis, qui j'étais, pour qui mon cœur battait. Ne me restera qu'un vague présent de souffrance, d'humiliation, d'infirmité. Signe pourtant le jour sa lumière, une main douce contre ma joue, l'eau sur la langue malgré la gorge asséchée, l'étonnement devant l'autre ou le rire des matins, l'émoi d'un souvenir qui transperce, oh, la douceur des larmes, tendresse d'un soir alangui sous le tilleul, parfum d'un sein dans les fleurs du printemps, sommeil comme un porc enfin. Tout ce que j'étais, je l'aurais oublié. Pourquoi vous en souviendriez-vous? Ils s'aiment, et ces bonheurs comme ils se tiennent, liés par le désir. La loi du printemps leur prend la main et les fleurs chantent par leur chair. Ils s'aiment, et nos regards sont naïfs qui louangent leur amour. Ils perdent leur jeunesse à jouer au grand, ignorant de tout, effrayés par leur corps, ils s'aiment à se jeter à la mer. Voilà, c'était quelques extraits de ce si beau recueil de Jean Le Boël intitulé « Et leurs bras frêles tordant le destin » publié aux éditions Henri, écrit du Nord. On écoute un peu de musique. Et ce sera au tour de Claude Verset de nous présenter sa chronique mensuelle.
«
Cette danse hongroise de Brahms sera suivie d'une chronique bourguignonne, car notre ami Claude Verset nous attend à Dijon pour nous présenter sa chronique mensuelle.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Choisir un paysage, c'est se rencontrer soi-même. Lit-on dans le premier poème de « Ma Patagonie » que Guénan publie aux éditions de La Sirène étoilée. Guénan, j'ai déjà évoqué dans cette émission, mais il y a maintenant plusieurs années, cette poète bretonne qui, de son prénom, a fait son nom d'auteur. À l'époque, elle nous avait donné rendez-vous sur la dune aux éditions Rougerie. Depuis, elle a entraîné ses lecteurs en des lieux plus lointains, mais qui lui sont familiers. D'abord avec Atacama, et aujourd'hui avec Ma Patagonie, où la marcheuse qu'elle est a vu ce que peu d'entre nous a pu voir. Ainsi, surprendre le règne invisible, la lampe allumée d'un cactus, la paresse feinte d'un lézard, un bijou scarabée bleu et or clippé sur une épine, arpenter le silence habité, faire couiner le lièvre des pampas, toiser l'urubu à tête rouge. Il pose, je l'immortalise. Je ne sens pas encore la charogne, il n'a pour moi qu'indifférence. Retrouver les sentiers préservés où s'insinue le mystère des millénaires. Me surprendre à aimer encore ce monde, cette vie pas encore perdue. D'autres poèmes nous feront approcher les baleines, le guanaco et son harem, les nandous et les éléphants de mer, les otaries et le manchot de Magellan, mettant en application un de ces préceptes dont Guénan aime à émailler ses textes, « Tout ce qui vit enseigne à qui sait entendre ». Et de déplorer les visiteurs, les barbares excursionnistes qui détruisent cette vie sauvage et qu'il faudrait dissuader de venir afin de ne pas abîmer l'attrait de ces contrées. Elle dit « Le soleil est un assassin, le tourisme aussi. » Et elle relève cette inscription, un avis sur fil de fer, qui vise à préserver l'espace des éléphants de mer, où l'on peut lire, en espagnol évidemment, « Jouissez en silence ». Jouissez en silence, quel conseil! Mais trop tard. Trop tard, cependant, pour nombre de peuples nomades, chasseurs-cueilleurs, peuple pourchassé, massacré, disparu. Faut-il compter sur le vent, omniprésent sur cette terre de feu, et dans la plupart des pages du recueil, pour s'en souvenir? Faut-il au vent fidèle confier sa confiance fichue en l'homme? Écrit Guénan. Et la poète, d'adresser un adieu à cette Patagonie qui lui est si chère, nous gardons tous en nous des lieux que jamais nous ne foulerons le cœur tiède. Allez, avec Guénan, visitez Ma Patagonie. C'est aux éditions La Sirène étoilée. On trouve facilement les coordonnées de ce petit éditeur sur Internet. Les 46 pages de l'ouvrage ne valent que 12 euros. Allez, et à bientôt.
Un grand merci à Claude Verset pour cette chronique mensuelle. Après Guénan, une autre femme poète, Sophie Dessaigne, qui a publié dans la revue des charges collection Polder « La vie comme elle va », qui est préfacée par Christian de Goutte, postfacée par Yves-Jacques Bouin. Je vous cite cette postface « La vie comme elle va ». est une rafale de poèmes, un flux de textes véloces. À peine un poème s'est offert que l'autre surgit, l'autre est la suite de l'un que le prochain complète, à la vitesse d'une foule pressée de vivre, vif palimpseste de poèmes comme une artère coupée d'où gicle toute une humanité avec soi au milieu. Je vous propose de lire, je me propose de vous lire quelques extraits de ce petit recueil épatant de Sophie de Saigne, La vie comme elle va. Je t'aime, les syllabes, les consonnes et les voyelles font un bouquet de fleurs au-dessus de nos têtes. Attention, changez l'eau régulièrement, quand ça fane, ça fait mal. L'école est morte, plus de rire, plus de cris, la maîtresse est en bikini, ça serre le cœur. Le préau désert. Et si les enfants ne revenaient pas en septembre, et si les enfants ne revenaient plus jamais. Matin, circulation mouillée avec phare, les lumières clignotent dans les flaques, les passants s'accrochent aux parapluies, on voudrait forcer l'immobilité des façades. Entrer dans une chambre aux draps encore tièdes. Une antilope aux oreilles casquées galope autour du lac. L'éclat pâle de ses épaules ressort du débardeur noir. Un pêcheur et sa bière les regardent passer. La bière est goguenarde et le pêcheur amer. Je sors dans la nuit, l'ombre des arbres sur la pelouse. Je me dis, est-ce moi sous les étoiles et mes jambes passent dans les branches. La brise nocturne me flanque la chair de poule. Mon ombre est coupée par l'allée de lumière de l'allumage public. C'est beau ce dessin sur la pelouse. Le ver luisant clignote deux fois pour me souhaiter bonne nuit. La pharmacienne pose les campides sur mes talons blessés par les chaussures neuves. Elle masse doucement les bords du pansement jusqu'à ce qu'il adhère à la peau. Douceur attentionnée, érotique presque. D'ailleurs, les néons du plafond ont un orgasme. Dans le magasin pour les pauvres, la colère, la hargne et la fatigue circulent dans les rayons. La caissière les attrape avec son épuisette à souffrance. La fratrie rassemblée, le dos droit, les mains posées à plat, le père balaie les miettes d'un revers de la main. Le manque est là sur la table, avec le peu d'amour qui les a mis au monde. Et puis ce dernier petit poème. On entre chez Odette. Dans le couloir, la tête de sanglier vous salue. Sur le mur du séjour, au beau milieu d'un poster de forêt, la tête du cerf surgit au-dessus de la banquette de Sky. Odette vit seule maintenant, dernier trophée de son mari chasseur. Le soir, elle s'assied dans le jardin et elle est bien. Voilà un très joli petit recueil de Sophie de Saigne, La vie comme elle va. C'est le polder numéro 176 qu'on peut se procurer en s'abonnant à la revue des charges, notre partenaire, je vous le rappelle. On écoute un peu de musique, s'il vous plaît.
My heart, the view, be you, passion flower of my dreams, that you love me too. I hear your name, my heart aflame, high going sing. perfume flower, can't you see? Poor man just for me. Passion flower, please be fair. Your lips, you show you care. Passion flower, take a chance with me, find romance. I hear your name, I heard a flame. I go and say, and you're the blame. Passion flower, hear me please, surrender to me.
C'était Passion Flower par Mina, la reprise d'une musique qui a beaucoup servi, notamment pour la publicité. Je ne vous en dis pas plus, vous l'aurez sans doute reconnu. Je vous propose à présent, pour terminer, d'enchaîner avec deux chroniques, celle de notre amie Cécile Guivarch, poète, animatrice de la revue en ligne Terre à Ciel, excellente revue en ligne. Et puis ce sera au tour de Patrick Jockel. Patrick Jockel, poète lui aussi. Tous les deux vont nous présenter des coups de cœur.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc pour cette fois-ci, un petit traité du noir sur motocyclette. C'est un titre de Roger Lahut qui est paru aux éditions Le Carnet du Dessert de Lune. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est un petit traité du noir sur motocyclette, hein? Je parie que ce titre vous intrigue. Effectivement, il s'agit bien d'un traité du noir, mais je n'ai vu aucune motocyclette en vue dans le livre. Roger Lahut a beaucoup d'humour, il dresse un inventaire du noir. C'est le noir, donc la couleur, c'est le sombre, c'est le vide, le tunnel, le corps, ça peut être la mort, les photos en noir et blanc. Bref, c'est un livre sur le noir. A priori, ça n'a rien d'engageant. Hein. Broyer du noir, on n'en a pas trop envie. Amis lecteurs, n'ayez pas peur. Cette écriture-là, elle n'est pas sombre du tout. Je dirais même qu'elle diffuse de la bonne humeur et de l'humour. Ce qui est étonnant de constater comment, à travers une couleur, cet auteur parvient à évoquer les différents moments de la vie et aussi la mort. Il évoque les souvenirs d'enfance qui, avec un étonnement avec les choses qui ont changé depuis l'enfance. Et quel changement pour Roger Lahut ? À titre d'exemple, par exemple, il nous parle de la Chupa Chup, qui au départ, quand il était petit, avait très peu de goût pour ses sucettes, et aujourd'hui, il y a plein de goûts qui ont surgi. Il parle aussi de l'apparition d'Internet et d'outils comme Wikipédia. Alors, qu'est-ce que ça a à voir dans tout ça ? Je pense que c'est vraiment pour la couleur noire, faire ressurgir plein de souvenirs, et aussi tout ce qui est de la vie. Et Roger Lahut nous parle aussi de son pépé qui est décédé dans le livre, et tout ça, ça vient vraiment dans ce livre. Mais vraiment, ça n'a rien de morbide, hein. Il y a toujours beaucoup d'humour. Hein. Il parle de son pépé avec beaucoup d'humour, même s'il est mort, et surtout avec beaucoup de tendresse et beaucoup de vie. Alors, par exemple, un petit passage. Je voudrais bien vous y voir, vous, dans cette situation, dans un noir si noir que le mot noir lui-même prête pour le moins à rire. Si au milieu du noir coulait une rivière, les truites seraient-elles des arcs-en-ciel ? Quand j'étais petit, mon pépé préféré à moi, il était déjà proche d'un certain noir, qu'on appelle la mort. Mais je ne le savais pas, et c'était très bien. Comme ça, il était très vivant, de la couleur des jours d'alors. Voilà, quand je parlais de tendresse, donc finalement, de ce petit traité, la lectrice que je suis retient un essentiel, c'est la vie. Et est-ce que, en fait, il y aurait une lumière dans le noir ? Est-ce quelque chose qui a de la couleur, le noir ? Et si tout était noir, comme le propose Roger Lahut ? Il dresse des listes, des choses qui font de beaux bruits dans le noir, une liste de choses dont on n'a pas besoin dans le noir, la liste de choses de ce qu'il y a bien dans le noir. Il dresse des titres aussi avec le mot noir dedans. Il a plein de citations qui aident à mieux vivre dans le noir. Il triture le noir dans tous les sens. Il les sort, il le rince, il les sort de nouveau. Il joue vraiment avec ce mot. Il invente aussi le jour mercre noir avec le mot noir. Et le noir, lui, il est toujours impeccablement mis au noir sans qu'on s'en préoccupe. Dans le noir, le temps aussi, il est noir, dit Roger Lahut. Alors du noir, Roger Lahut fait vraiment sa couleur, il ose, il donne le ton. Et vraiment, je vous invite à lire ce livre, sans motocyclette, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.
Eh bien, bonjour. Et une grande nouvelle aujourd'hui, c'est la naissance en 2017 d'un nouvel éditeur, les éditions Fatrasi, basées en région parisienne. C'est l'œuvre d'un jeune homme dynamique qui participe aussi à cette association de jeunes poètes et de jeunes artistes Le Temps des Rêves, une association que j'avais rencontrée à Durset lors de ses fêtes de poésie. En 2017, Fatrasi Édition aura édité 3 livres. Je vais parler aujourd'hui de Télescope, un livre de Nicolas de Cazenove. Le livre commence avec ce poème-là. Quand un poète veut voir de plus près les étoiles, il ferme les yeux et il imagine. Que ressent le scientifique qui ferme les yeux et imagine? L'envie d'inventer le télescope. Que ressent le poète qui regarde à travers la lunette du télescope? L'envie d'écrire un poème. Voilà d'emblée où cet ensemble de courts poèmes se situe, dans cet espace infini entre science et songe. On y croise un créateur amateur de thé, un photographe montagnard, un pianiste, un épouvantail et d'autres personnages, réels ou non, des poèmes ciselés, chaque mot à sa place. Une écriture est là, qui cherche à tout maîtriser, qui explore, qui s'invente. Nicolas de Cazenove, un jeune auteur à suivre, je pense, il va nous étonner, il nous étonne déjà. Un autre poème, très court ici. Les mystères ne sont pas des blocs indivisibles qu'il faut admirer en l'état ou ne pas admirer. Ils sont des galaxies et nous sommes des télescopes. Alors, je vous ai parlé de ce créateur que l'on croise dans le livre. Voici le poème qui lui est dédié. Il s'appelle « Empreinte ». Quand le tout décide, pour tromper son ennui, de projeter sur terre un petit rien, l'homme, ou bien la nuit, c'est qu'il aime le thé. Il se met quelques mondes dans un petit sachet et regarde lentement la couleur diffusée. L'une après l'autre, créature, pensée, matière, se diluent, laissant dans leur sillage leur goûteux manteau d'existence. Le frottement des âmes donne une odeur boisée. Dans la grande infusion où tombent les années, le tout trempe parfois les lèvres, savoure le fumé, la descente brûlante le long de l'œsophage, puis il pousse un long et doux soupir d'aise et de nostalgie, à peine exagéré, en fermant légèrement les yeux. Donc il s'agit de Télescope, Nicolas de Cazenove, chez ce nouvel éditeur, Fatrasi Édition, que je vous recommande. Voilà, à bientôt.
Eh bien, merci Patrick. Vous le voyez, les maisons d'édition ne manquent pas dans le secteur de la poésie. Certaines mettent la clé sous la porte, mais aussitôt une autre pousse à côté. C'est formidable. C'est une excellente nouvelle. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rentiel qui se poursuivent, nous l'espérons tous, pour votre plus grand plaisir. J'aurai le plaisir, le bonheur de vous accueillir à nouveau sur la route inconnue dans une quinzaine de jours. Excellente fin de journée à toutes et à tous.